Chapitre 6.
Du frère préparateur et de ses fonctions. Le jour de la tenue du scrutin pour une réception, le vénérable maître nommera le frère qu'il veut charger de la préparation du candidat. Il aura soin de choisir un des frères les plus instruits sur l'ordre maçonnique et qui puisse connaître toute l'importance de cet emploi. Le frère préparateur s'informera auprès du frère proposant de l'heure où il a laissé le candidat à lui-même dans la chambre de préparation et, lorsqu'il jugera que le récipiendaire y est resté seul pendant un temps convenable, il se rendra auprès de lui, après en avoir pris l'ordre du vénérable maître, sans vêtements ni ornements maçonniques. Le travail de la loge ne pouvant être continué qu'après le retour du frère préparateur, il réglera ses fonctions auprès du candidat sur l'heure indiquée pour commencer le travail, afin de pouvoir se rendre auprès du vénérable maître immédiatement après que celui-ci l'aura fait avertir. Il abordera le récipiendaire avec une contenance réservée et aussi sérieuse que ses fonctions l'exigent, abandonnant tout à fait le ton familier qui pouvait lui être habituel avec le candidat s'il le connaissait auparavant. Il lui annoncera que la loge, assemblée pour procéder à sa réception, après qu'elle l'en aura reconnu digne, l'a député auprès de lui afin de connaître ses vrais sentiments sur l'ordre dans lequel il désire entrer et lui en venir rendre compte. Il le priera de dire avec franchise s'il est déterminé à demander d'être reçu maçon par sa seule et libre volonté, ou s'il n'y serait point entraîné contre son gré par l'influence ou l'ascendant que quelque autre personne aurait sur lui, ce qui serait absolument contraire aux lois de l'ordre et aux vœux particuliers de la loge. Si le candidat avouait que c'est contre son gré et par l'ascendant que quelque autre personne aurait sur lui, le frère préparateur lui dirait
« Monsieur, vous ne pouvez être reçu maçon si vous n'en avez la volonté et le désir. Je vais rendre compte à mes frères de ce que vous venez de m'avouer. L'ordre condamne la contrainte qu'on a exercée sur vous et bientôt vous serez rendu à vous-même. »
Le frère préparateur va sur le champ faire son rapport au vénérable maître qui prendra, avec les officiers de la loge, les mesures convenables pour qu'il ne se puisse commettre aucune indiscrétion, ni par le candidat, ni par aucun des frères. Si le candidat annonce au contraire que c'est librement et volontairement qu'il demande à être reçu maçon, le frère préparateur lui dira
« Vous ne pouvez en effet, monsieur, être reçu maçon si vous n'en avez la volonté et le désir. Mais cela ne suffit pas à l'ordre. Il faut encore qu'il connaisse vos motifs. Dites-moi sincèrement quels sont les motifs qui vous amènent ici et ce que vous attendez de l'ordre des francs-maçons. »
Le candidat ayant répondu, le frère préparateur lui dira
« Je ne puis, monsieur, apprécier ce que vous venez de me dire, sans vous avoir entendu sur les trois questions essentielles que l'ordre a voulu qu'on soumît en ce moment à vos réflexions. »
Les trois questions d'ordre et fondamentales sont transcrites en gros caractères sur un tableau que le frère proposant a dû mettre sous les yeux du candidat. Le frère préparateur interrogera avec prudence le candidat sur ces trois questions, mais il ne lui dira rien de tout ce qui est contenu dans le premier tableau, que le frère parrain a découvert en se retirant. Il écoutera avec douceur et patience ses réponses, sans l'interrompre, soit qu'il les fasse verbalement, soit qu'il les lise, les ayant rédigées par écrit. Quelles qu'elles soient, le frère préparateur ne les contredira point alors, mais surtout, il éloignera toute discussion et se tiendra littéralement à lui dire ce qui suit.
Monsieur, ces questions ne sont pas offertes aux candidats pour entreprendre avec eux aucune controverse sur les objets qu'elles présentent à leur réflexion, mais pour obtenir par leur propre déclaration un témoignage certain de leur croyance ou de leur manière de penser sur les points qui sont, je ne crains pas de vous le dire, la base essentielle de la franc-maçonnerie. L'ordre ne devant pas accueillir des individus qui auraient une doctrine opposée à celle qu'il regarde comme sa règle fondamentale, a dû, relativement à ceux qui désirent y être admis, établir des formes certaines pour connaître leurs vrais sentiments et leur conformité avec ses lois, afin d'éloigner de ses assemblées tout prétexte de dispute ou d'opposition d'opinion, tendant à détruire la charité, la fraternité et l'union qui doivent y régner essentiellement. C'est dans cette vue, monsieur, et non par aucun doute ou indifférence sur les vérités sublimes professées dans l'ordre, que les discussions religieuses, morales et politiques sont sévèrement prohibées parmi les frères, et qu'ils sont exhortés à ne pas craindre d'avouer hautement les vérités de la religion devant les profanes qui les rejettent, tous devant faire leurs efforts pour se rapprocher du sanctuaire de la vérité, afin d'y former avec leurs frères l'union la plus intime et la plus pure qu'il soit possible de voir entre les hommes.
Aussi, ces questions ne sont présentées aux candidats qu'afin de connaître par leurs réponses s'ils sont dignes d'entrer dans l'ordre, et pour leur faire entrevoir son véritable but et le terme des travaux particuliers imposés à chaque maçon. Je dois même vous prévenir qu'elles vous seront souvent rappelées, et qu'avant l'époque où vous serez tenu d'y répondre d'une manière plus positive, vous aurez dû prouver à vos frères, par la pratique invariable des vertus que l'ordre exige, la conformité réelle de vos sentiments avec la doctrine morale et religieuse qui fait la base de cette respectable association. Sans cela, monsieur, cette époque d'avancement dans la franc-maçonnerie serait de plus en plus reculée pour vous, et dans ce cas, vous ne pourriez vous en plaindre, car ici vous ne sauriez être juge dans votre propre cause, mais vous serez jugé sur vos œuvres et par vos frères, témoins de vos travaux.
Je leur rendrai tout à l'heure un compte-rendu fidèle de vos sentiments et de la manière dont vous me les avez exprimés.
Si les réponses du candidat sont conformes à la doctrine de l'ordre, le frère préparateur l'exhortera à y persévérer, et il les fera connaître sommairement à la loge lorsqu'il y fera son rapport. Lorsque le candidat aura rédigé ses réflexions par écrit, le frère préparateur les remettra au vénérable maître qui, en les envoyant au frère secrétaire, dira
« Frère secrétaire, que les réflexions du candidat soient consignées dans les archives de l'ordre afin de servir de base à son examen pour les autres grades, si jamais il en est jugé digne. »
Quelques excellentes que puissent être les réflexions écrites par les récipiendaires, elles ne pourront être lues en loge. Le frère secrétaire y inscrira le nom du candidat. Si les réponses du candidat ne sont pas assez réfléchies et développées, le frère préparateur l'exhortera, en peu de mots, à une plus sérieuse attention sur ces objets et à les considérer sous un point de vue plus vrai et plus satisfaisant s'il veut réussir dans un ordre qui a pour base essentielle la religion, la vertu, la bienfaisance et l'amour de la vérité. Dans ce cas, le frère préparateur fera son rapport à la loge avec charité, prudence et circonspection. Si les réponses du candidat étaient absolument opposées à ce qu'on doit attendre de lui, le frère préparateur devra sur le champ se rendre auprès du vénérable maître et lui en ferait son rapport en particulier. Alors le vénérable maître appellerait à lui les deux surveillants et le frère proposant, afin de recevoir l'avis des deux surveillants en présence de ce dernier, et de prendre le parti que la sagesse et la prudence lui suggéreront. S'il était même nécessaire, le vénérable maître appellerait aussi les autres officiers de la loge. Le frère préparateur ne dira rien de plus au candidat sur les trois questions et sur les réponses, mais il devra employer utilement le temps qui lui reste en présentant sommairement au candidat les réflexions suivantes. 1. Il l'invitera à rejeter tout motif d'une curiosité frivole qui ne servirait qu'à l'égarer et à l'éloigner de la vérité. 2. Il lui présentera la franc-maçonnerie comme un ordre ancien et respectable, voué principalement à une bienfaisance active et universelle, laquelle doit s'étendre à tout ce qui peut être utile aux hommes, soit aux individus, soit à la société en général. 3. Il lui dira que les maçons doivent faire bonbonnage, en doivent se livrer à l'étude et à la pratique constante d'une morale épurée par la religion exerçant toutes les vertus religieuses, humaines et sociales. 4. Il l'entretiendra sommairement des devoirs et obligations qu'il va contracter en qualité de franc-maçon, de la soumission qu'il devra aux lois et règlements maçonniques, à ses supérieurs d'ordre et aux frères qui seront chargés par eux de l'instruire et de le diriger, du profond silence qu'il devra garder envers ceux qui n'auront pas contracté les mêmes engagements que lui sur tous les objets qui lui seront confiés, même quand il ne pourrait en connaître l'importance et en développer toute l'étendue. 5. Il lui représentera que s'il ne se sent pas dans une disposition ferme et sincère de remplir, autant qu'il lui sera possible, les devoirs dont il lui a tracé le tableau, il ferait beaucoup mieux de se retirer dès à présent puisqu'il est en pleine liberté de le faire. 6. Le candidat l'ayant assuré de sa persévérance, il lui parlera des passions, vices et défauts les plus contraires au caractère d'un vrai maçon. Enfin, il l'avertira que, si ses mœurs et sa conduite sociale devenaient essentiellement contraires aux principes de l'institution maçonnique, ses grades dans l'ordre lui seraient alors plus dangereux qu'utiles, au cas qu'il réussisse à les surprendre, puisqu'il perdrait l'estime de ses frères et qu'il s'éloignerait lui-même des voies qui pouvaient seules le conduire à un terme heureux. Il le pressera de chercher, par un examen sérieux et journalier de lui, même à dévoiler les vrais motifs qui influent le plus souvent sur sa conduite et sur ses actions, afin de pouvoir ainsi rectifier son cœur, ses habitudes et sa vie morale. Il lui dira qu'il doit faire les plus grands efforts pour remplacer en lui-même, par l'amour et la vertu, tous les attraits illusoires des sens et de l'orgueil. 7. Il l'invitera à ne point confondre l'ordre des vrais maçons avec cette multitude d'hommes, et peut-être de frères, qui ont usurpé ce titre, puisqu'ils en ignorent et méconnaissent le but réel et les véritables principes, et qui dégradent la franc-maçonnerie par leur conduite, et bien plus encore par les fausses doctrines qu'ils ont adoptées et qu'ils ne craignent pas de professer. C'est dans cet esprit que le frère préparateur dirigera ses instructions, parlant avec douceur et simplicité, sans précipitation, et surtout sans affecter un ton dogmatique et sentencieux. Si le candidat propose quelques réflexions, il le laissera parler sans l'interrompre, et ensuite, il applaudira à ses idées ou les rectifiera fraternellement si elles ont besoin de l'être. Comme la trop grande durée d'un entretien si sérieux pourrait excéder les forces du candidat, le frère préparateur doit avoir soin de ne pas trop fatiguer son attention en épuisant ses matières. C'est pourquoi il doit se retirer dès qu'il apercevra que le candidat aura besoin d'être laissé à lui-même. Mais s'il reste auprès du candidat jusqu'à ce que le vénérable maître envoie bon l'avertir qu'il attend son retour, il cessera aussitôt cet examen et s'en tiendra, avant de le quitter, à le prévenir sommairement que, dans sa réception, il subira des épreuves essentielles et indispensables, par lesquelles l'ordre s'assurera de la sincérité et de la force de son désir, de la fermeté de son courage et de sa volonté, que ces épreuves ne sont point arbitraires, mais fondées sur des lois sages et invariables, qu'il se montrerait incapable d'être admis dans l'ordre des maçons s'il venait à manquer de force et de courage dans des épreuves qui ne sont qu'un faible emblème de celles par lesquelles tout homme doit passer. Il lui fera ensuite lire et signer l'engagement préliminaire qui suit « Moi, N. » Sous-signé, ayant désiré et demandé d'être reçu dans l'ordre des francs-maçons et réitérant cette demande par l'effet de ma propre volonté, dans laquelle je déclare que je persiste et veux persister, je promets, et donne ma parole d'honneur, de garder inviolablement et toujours le secret sur tout ce que je viens de voir et d'entendre relativement à l'ordre maçonnique, et sur tout ce qui pourra encore m'être communiqué à l'avenir de quelque manière que ce puisse être, soit que ma réception s'accomplisse ou non. En foi de quoi j'ai signé le présent engagement. Après la signature de cet engagement, le frère préparateur lui demandera la feuille de papier sur laquelle il a dû écrire ses noms, âge, qualité, domicile. Il l'exhortera à se tenir prêt pour sa réception, à se livrer avec une entière confiance à celui qui viendra finir sa préparation, l'assurant qu'il ne lui demandera rien qui ne soit exigible pour être reçu et qui ne soit en tout point conforme aux usages et lois anciennes de l'ordre. Avant de se retirer, et au moment même où il devra le faire, le frère préparateur répétera au candidat la question suivante, en prenant un ton ferme et décisif.
« Persistez-vous, monsieur, dans votre dessein d'être reçu maçon ?»
Le candidat répondra « Oui, monsieur. » Alors le frère préparateur enlève le premier tableau et découvre celui de la mort tel qu'il est décrit dans le paragraphe suivant. Et sans rien ajouter, il se retire, referme la porte à clé et va faire un rapport succinct au vénérable maître à qui il remet les papiers, où le candidat a écrit ses noms et âges, etc.